19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de recevoir Delphine Horwiller. Bonsoir madame. Est-ce que je dois dire madame ou votre grandeur? Je ne sais pas comment on dit quand on s'adresse à un rabbin.
Non, on peut dire Delphine. Il y a des gens qui disent madame le rabbin, madame la rabbine.
Ça madame la rabbine, hein, ça, on ouais, peut féminiser.
On peut féminiser.
Vous savez que moi, en tant que catholique, je vous envie énormément d'avoir le droit d'être à la prêtrise. Parce que chez nous, on est encore très, très machiste, très rétrograde.
Ah, mais je vous rassure, chez nous aussi, c'est un truc très partagé par toutes les religions qui ont toutes, et c'est un scoop, un petit problème avec les femmes.
Oui. Oui, mais enfin bon, c'est bien que vous soyez, que vous soyez rabbin ou rabbine. Vous êtes donc une figure de l'association Judaïsme en mouvement et directrice de la rédaction de Ténois. Ténois, c'est une revue consacrée.
Oui, c'est une revue, un site internet, et puis c'est des ateliers d'études. Chaque mois, j'anime un atelier, l'atelier Ténois, qui est un atelier d'études ouvert à tous. Mais voilà, c'est aussi un site, une revue, plein de choses.
Très bien. Est-ce que à chaque question que je vais vous poser, vous allez répondre par une question, parce que c'est un cliché qu'on dit sur les rabbins.
Pourquoi vous me demandez ça?
C'est ce que je pensais. Faut-il que je vous appelle Delphine Horwiller ou Jeanne Wayne? Il faut expliquer pourquoi je pose cette question.
En fait, on rit de quelque chose qui n'est pas horrible. J'ai décidé de quelque chose d'horrible, mais sur lequel j'ai décidé d'écrire avec une petite distance humoristique de second degré, c'est que malheureusement, ces dernières semaines, avec la montée de la menace antisémite, j'ai eu, comme beaucoup de gens, la visite de la police ou de services de sécurité qui étaient inquiets pour ma sécurité, celle de mes proches, et on m'a conseillé de trouver des pseudonymes, de peut-être enlever le nom sur ma boîte aux lettres, de commander des taxis avec un autre nom. C'est terrible de penser qu'en 2023-2024, il faille vivre ainsi. Et donc, pour essayer de prendre une certaine distance humoristique avec cette tragédie, avec mes enfants, on a développé un petit jeu. On s'assoit autour de la table du dîner et on invente des pseudos.
Et Jeanne Wayne est très bien trouvée.
C'est
bien,
mal,
ça vous va bien, oui. Parce que ça fait justicière, ça fait cow-boy, ça fait quelqu'un qui veut défendre le bien contre le mal, peut-être.
Ouais, je me suis dit que c'était pas mal d'aller piocher du côté des héros, des super-héros américains. À un moment donné, j'ai aussi envisagé des pseudonymes littéraires. Par exemple, j'ai été, je crois, aussi pour commander au restaurant, j'ai été Roman Gary.
Ah, Roman Gary.
Oui.
Tiens, c'est drôle, on va en reparler de Romain Gary un peu plus tard dans l'émission. Alors, le premier livre que j'avais lu de vous, c'était « Vivre avec nos morts », qui est ressorti en livre de poche. Et c'était d'ailleurs, il a eu le prix Renaudot Poche en 2022. Et « Vivre avec vos morts », en fait, vous n'y arrivez pas, puisque maintenant vous avez des insomnies.
Oui, mais j'ai été rattrapée. Oui. Je ne sais même pas s'il m'avait vraiment quittée, mais en fait, je me rends compte que en fait, j'écris toujours un peu sur la même chose. C'est notre cas à tous, je crois. Moi, mon sujet, vraiment, je me rends compte, mais il a fallu du temps pour me rendre compte, c'est que je n'écris que sur les fantômes, que sur nos hantises, qu'est-ce qui revient dans nos vies, les revenances et les revenants qui, parfois, nous empêchent de dormir ou parfois habitent nos nuits, nos rêves, nos cauchemars. J'en avais parlé dans Vivre avec nos morts, j'en ai parlé autour de Il n'y a pas de hasard. Et effectivement, ce livre-là...
Donc, le dernier livre qui s'appelle Comment ça va pas, Conversation après le 7 octobre, qui vient de sortir chez Grasset. Et je le précise, il est numéro un des ventes en France dans la catégorie essai. Donc, c'est un livre qui touche énormément de monde. Et ce livre est donc une tentative pour, justement, arriver à vivre avec ces morts récents de ce que le président de la République a appelé le plus grand massacre antisémite de ce siècle. Le 7 octobre 2023.
Oui, les tragédies du Proche-Orient, celles des uns et des autres, mais qui sont des tragédies humaines de part et d'autre avec lesquelles il nous faut vivre. Et c'est vrai que mes insomnies et mes angoisses de ces dernières semaines ont donné naissance à ce livre qui, au départ d'ailleurs, n'était pas un, c'était comme un journal intime que j'écrivais pour essayer de survivre ou de retrouver un sol un peu sous mes pieds.
Il y a 10 conversations dans ce livre, qui sont des conversations pas chez La Pérouse, alors avec vos enfants, avec vos grands-parents qui ne sont plus là, avec la douleur, avec la parano, avec Clo-Clo, ce qui est plus surprenant. Pourquoi Clo-Clo?
Alors moi, je suis une fan de musique de variété, de façon générale, et j'ai une tendresse particulière pour ces années, les années 60, les années yéyé. Et alors, dans ce livre, j'ai décidé de faire référence à Clo-Clo avec un peu, on va dire, de mauvaise foi. En fait, j'ai voulu faire croire à un moment donné que j'étais convaincue qu'une de ses chansons parlait d'antisémitisme.
Ça s'en va et ça revient.
Ça s'en va et ça revient. Mmh. Ça se chante, ça se danse. Alors bien sûr, c'est là encore une tentative un peu désespérée de faire
bien.
De l'humour avec ce qui est tragique. Mais
c'est l'humour juif, hein, c'est ça. Hein.
Voilà, on fait comme on peut pour se relever dans l'histoire. Mais je me suis dit que pourquoi pas, cette chanson qui raconte quelque chose qui revient, raconte assez bien cette haine-là antisémite. On croit qu'on s'en débarrasse, qu'elle s'éloigne, que le monde a compris. Et puis, vlan.
Oui,
on
oui.
se la reprend dans la tronche.
C'est fou, c'est-à-dire que, en fait, c'est la question que vous semblez poser dans tous vos livres. Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur ce petit peuple? C'est pas grand monde sur Terre, 20 millions de gens. Pourquoi c'est toujours eux que tout le monde déteste?
Oui, c'est assez pratique, hein, on réfléchit bien.
D'avoir un bouc émissaire, vous voulez
oui,
dire.
C'est assez pratique parce que, en plus, ce qui est assez génial, entre plein de guillemets, dans la haine antisémite, c'est que ça mute en permanence. C'est-à-dire que, selon le contexte, vous pouvez reprocher aux Juifs tout et son contraire. C'est-à-dire que vous pouvez dire, les Juifs, ils sont trop riches, ils sont trop pauvres, ils menacent le système, ou ils sont le système, ou alors qu'est-ce qu'ils sont bolcheviques, ou alors qu'est-ce qu'ils sont capitalistes.
Oui.
On peut leur reprocher d'être un peu trop féminin et lascif, ou au contraire, d'incarner aujourd'hui le mâle alpha. Enfin, on peut tout leur reprocher, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les Juifs, mais ça a tout à voir avec le malaise existentiel d'une société qui va greffer sur eux la culpabilité, la responsabilité des problèmes.
Tout à fait. Alors, vous aimez beaucoup la variété, mais vous aimez aussi la musique classique, puisque ici, sur Radio Classique, on vous a demandé de choisir des morceaux, et vous avez, comme premier choix, vous avez pris Félix Mendelssohn, le concerto pour violon numéro 2. C'était votre choix, Delphine Horviller, d'entendre Mendelssohn, joué par Isaac Perlman en 1983. C'est bien de commencer par un morceau émouvant.
Oui, et puis Mendelssohn, effectivement, c'est une famille très particulière. Son grand-père était rabbin, Moïse Mendelssohn, et ce chemin de Félix Mendelssohn. Et puis, il ne faut pas oublier que les Hitler, les nazis, considéraient que c'était une musique dégénérée, que c'était une interdiction de l'écouter. Et je pense qu'il y a aussi un petit effet de revanche dans l'histoire, de retrouver ce qu'ont été les grands génies qu'on n'a pas voulu entendre.
Oui. Avant d'être rabbin, vous avez étudié la médecine, mais ni la religion, ni la science, dites-vous, ne permettent d'expliquer l'inexplicable. Et donc, ce livre, Comment ça va pas, chez Grasset, une tentative pour expliquer l'inexplicable. Je précise tout de suite que vous échouez.
C'est pas grave, vous êtes numéro un des ventes en France avec ce livre, donc tout va bien. Les gens aiment vous entendre, vous réfléchir sur cette question.
Oui, parce que en fait, j'évolue dans une tradition, on en fait souvent des blagues, mais c'est vrai, la tradition juive, elle se fiche des réponses. Elle s'intéresse aux questions. Et il y a dans la question la possibilité d'une non-résolution, la possibilité d'une interprétation infinie. C'est terrible à quel point les réponses clôturent, elles enferment, en fait, elles font mourir quelque chose. C'est beaucoup plus intéressant de se dire que ni les gens, ni les textes n'ont fini de parler. En fait, le cœur de l'exégèse de l'interprétation, c'est l'irrésolu. C'est le fait que personne n'aura jamais fini de comprendre ce que ça peut vouloir dire, ni la musique. En fait, on vient d'écouter une musique là maintenant, mais elle peut être réinterprétée. C'est intéressant ce mot parce que ça
éternellement, indéfiniment. Bien sûr.
C'est comme les textes, sacrés. Ouais. Et vous avez remarqué, le propre des fondamentalistes, c'est que ils vous font croire que un texte a fini de parler. Ils vous disent c'est ce que la Bible veut dire, c'est ce que le Coran révèle, c'est ce que. Mais en fait, à partir du moment où le texte a fini de parler, alors il est plus vraiment sacré. Ce qui est sacré, c'est quand il continue infiniment de dire.
Alors, vous qui êtes la spécialiste de l'interprétation, bien, je vais vous demander de lire un extrait de votre dernier livre. C'est la page 18-19 que j'ai choisie. Et puis, je vous dirai après pourquoi.
Bien. Je rêve que tous les codes de la conversation puissent soudain changer. Que toute rencontre humaine avec des proches ou des inconnus passe par d'autres mots. Je rêve que nous parvenions même à inventer un autre langage. Ou mieux, je rêve que le monde entier comprenne que dorénavant, rien ne se dit autrement qu'en yiddish. Que nous soyons juifs ou pas, pro-israéliens, pro-palestiniens, profondément fatigués ou juste prostrés dans notre douleur, qu'importe. Nous qui sommes dévastés, nous qui trimballons dans nos mots ou dans nos vies les douleurs de nos histoires, j'affirme que nous ne pouvons plus parler que dans cette langue-là. Et je voudrais tant que chaque fois que l'on se croise, on puisse se dire « Oye bror » pour se saluer vraiment, avec les boyaux en vrac et les intestins déchirés par la peine.
« Oye bror », ça veut dire quoi ? C'est du yiddish, ça veut dire ?
Ça veut dire « quelle malédiction ».
Quelle malédiction. Et on dit ça à peu près à tout moment de la journée, sans raison ou avec raison.
Oui, à toutes les sauces, parce que « Oye bror », ça fait partie des expressions yiddish qui peuvent être extrêmement positives, extrêmement négatives, qui peuvent aussi bien vouloir dire Oh, et à Broch, je mangerai bien encore du chocolat. Et oh, et à Broch, quelle terrible journée. Oh, et à Broch, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et ouais. Oh, et à Broch, souviens-toi du passé. En fait, c'est une façon de ponctuer dans la plainte, mais c'est une plainte, encore une fois, qui permet de dire on n'est pas que ce qui nous est arrivé. Ok, bon, il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. Mais est-ce qu'on va laisser cette douleur et cette peine tout dire de nous ? En fait, il y a un petit. C'est comme si on tapait sur la table. En disant,
oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on trouve aussi chez Saul Bellow, chez Isaac Singer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Yiddishkeit, c'est l'esprit de la loose, un peu, non ? C'est ça, c'est un orgueil de juif errant.
Ouais, c'est ça, c'est une confédération des losers. Mais la confédération des losers, en fait, elle appart avec un avantage, quand même, parce qu'il y a quelque chose dans la conscience de l'impuissance. En fait, qui fait qu'on peut reprendre le dessus sur son adversaire. Et c'est le sens aussi des blagues juives. En fait, l'humour juif, en général, il sert à ça. Il sert à dire, OK, bon, bah, je suis cloué au sol, mais la façon dont je vais raconter cette histoire fait que je peux prendre le dessus sur mon adversaire. En fait, je suis tellement ratatiné que je suis bien au-dessus de tout ça. Romain Gary le disait, l'humour, c'est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. En fait, c'est paf, une façon de retourner.
Bon, alors, puisque vous parlez de Romain Gary, on va l'écouter.
Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle d'un autre, ni rien. Je ne vais absolument rien recommencer.
Ça, c'est une question importante. Parce que vous-même, si je vous demandais si vous auriez envie de recommencer, est-ce que vous auriez envie de corriger, par exemple, le 7 octobre ?
Oui,
évidemment.
Évidemment que si on pouvait faire quoi que ce soit pour empêcher cette tragédie, évidemment que. En même temps, c'est facile à dire a posteriori. Toujours, on se dit « Ah oui, mais on aurait dû le voir venir. » Évidemment que tous les signes avant-coureurs étaient là, et la politique des uns, et le déni des autres, et le choix de la violence, et l'extrémisme. Mais en réalité, c'est facile. L'histoire, d'abord, elle nous échappe, et particulièrement celle du Proche-Orient. Ça ne suit aucune courbe de causalité logique, le Proche-Orient. Moi, je pense toujours au fait que quand j'y vivais, on pensait que la paix, dans les années 90, oui. les accords d'Oslo, on se disait « ça y est, on a la solution, c'est à portée de main, c'est fini, c'est résolu ». Et on voit bien à quel point on s'est planté, en fait. Tout a basculé dans la nuit noire. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui, quand on est dans une telle obscurité atroce dans cette région, peut-être que tout à coup va émerger ce qu'on n'attend pas et ce qu'on ne pouvait pas prévoir. De l'imprévisible, hein, quelque chose qui va retourner cette réalité pour faire naître autre chose, je ne sais pas. Ça, c'est
oui,
l'élan
mais
optimiste.
C'est ce que tout le monde souhaite, évidemment. Et vous avez d'ailleurs milité, vous êtes considéré comme un rabbin à la fois féministe, pro-palestinienne, anti-orthodoxe et même anti, disons-le, Bibi Netanyahou, ce n'est pas votre tasse de thé, cet homme d'extrême droite ou avec des alliés d'extrême droite.
Ses alliés et son gouvernement ne sont pas du tout mes amis, mais pour autant, moi, je me définis comme très sioniste au sens où moi, je l'entends et pas dans cette définition atroce que certains veulent lui faire charrier aujourd'hui à ce mot. Moi, je crois en la nécessité de l'existence de cet État, en sa pleine légitimité. Et je crois,
mais d'un autre État aussi ?
D'un autre État aussi, je crois, à la nécessité que coexiste un État, la solution à deux États dont tellement de gens aujourd'hui peinent à parler. Moi, je ne vois pas tellement d'autres options que celle-là, mais ça implique la pleine reconnaissance du narratif des uns et des autres, de la légitimité des uns et des autres à se trouver là, et de la reconnaissance de la douleur des uns et des autres, parce que si on n'a pas d'empathie pour les uns et les autres, alors on fait partie du problème. Et aujourd'hui, je suis sidérée de voir que il y a des gens qui sont incapables d'avoir de l'empathie pour l'autre, qui sont persuadés que c'est un western, qu'il y a des gentils, des méchants, des cow-boys, des indiens, des forts, des faibles, des gens qui souffrent et des gens qui infligent une souffrance. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça.
Il y a eu hier ou avant-hier une grande féministe, Judith Butler, qui est allée dans une conférence à Pantin et qui a déclaré que le 7 octobre était un acte de résistance armée.
Mais quel drame et quelle abjection qu'on en arrivait là, et de penser que cette femme, qui est une papesse du mouvement woke aux États-Unis, peut en arriver non seulement à dire qu'on parlait de résistance pour cet octobre de barbarie, et puis à nier,
c'est
ou en tout
terrorisme.
Cas, voilà, à mettre en question les viols des femmes israéliennes et les agressions sexuelles qui sont aujourd'hui référencées. Voilà, il n'y a plus suffisamment de témoignages. Mais voilà, elle remet en question, et de penser qu'une voix qui incarne le féminisme radical aujourd'hui puisse parler ainsi, c'est pour moi ahurissant.
Oui, c'est très... Voilà, je voulais parler de ça parce que ça vient d'arriver.
Oui, c'est important.
Revenons aux blagues, parce que c'est
quand même... d'ambiance.
J'imagine que toutes les émissions où vous allez, on vous parle tout le temps de cette guerre épouvantable, donc je préfère que vous me lisiez une blague qui était dans votre livre « Vivre avec nos morts » et que j'adore. C'est les deux rabbins dans un taxi.
Ah oui. Deux rabbins sont à l'arrière d'un taxi à New York. L'un dit à l'autre « Je suis petit et médiocre, je suis inexistant. » L'autre renchérit « Quant à moi, je suis poussière de poussière, fumée inconsistante, informe et ridicule. » Le chauffeur du taxi se retourne vers eux et s'exclame « Mais enfin, messieurs les grands rabbins, si avec votre sagesse vous êtes poussière et fumée, alors moi, je suis un néant de néant, un déchet minable, un résidu. » Les deux sages se tournent immédiatement l'un vers l'autre et disent « Non mais, pour qui se prend-il celui-là ?»
Alors cette blague que Jean d'Ormesson racontait souvent, je l'adore, parce que moi-même je suis un misérable vermisseau, je ne suis rien de rien, un minable, mais je dors mieux que vous la nuit.
Quel frimeur de dire ça, c'est pas possible.
C'est vrai, non, je peux pas, j'aime me vanter. Il y en a une autre aussi.
Non mais c'est cette blague, c'est vrai qu'elle est géniale de sagesse, parce qu'elle dit tellement bien qu'il faut être sacrément grand pour pouvoir se dire tout petit. Et je trouve que c'est ça la vérité. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir raconter sa petitesse.
Oui, je sais plus qui disait « je suis une montagne de modestie ». Alors, une autre blague qui était la blague juive préférée de Marceline Loridan, survivante d'Auschwitz et meilleure amie de Simone Veil.
Oui, qui vivait tout près d'ici. D'ailleurs, on est un peu dans ses rues, dans son quartier, que peut-être elle hante encore un peu par sa présence. Oui, c'est une célèbre blague d'humour noir sur la Shoah. L'histoire de deux rescapés des camps qui font de l'humour noir sur la Shoah. Dieu qui passe par là les interrompt. Mais comment osez-vous plaisanter sur cette catastrophe ? et les survivants de lui répondre « Toi, tu peux pas comprendre, t'étais pas là. » Ça, c'est de la pure théologie juive. Ça, c'est vraiment une réflexion sur la présence ou l'absence de Dieu dans le monde, qui est quelque chose de très cher pour les mystiques, et particulièrement pour les kabbalistes, les mystiques de la tradition juive, qui se posent la question de l'absence du divin, de son retrait du monde, exactement.
Bah, oui, mais permettez-moi de vous la poser à ce moment-là. Que fout Dieu pour tolérer de telles horreurs, des attaques comme celle du 7 octobre, ou les bombardements terribles et monstrueux sur Gaza? Où est-il, là? Il est surmené? Il est débordé? Ou on a perdu son téléphone?
Il est injoignable. Moi, j'ai envie de dire que si Dieu intervenait dans l'histoire de façon si claire, ça se saurait. En fait, on l'aurait remarqué. Mais il y a effectivement une certaine théologie qui est souvent associée à une forme de foi du charbonnier. Les gens pensent que, abracadabra, Dieu va intervenir dans l'histoire. Mais ces pensées religieuses-là, elles sont problématiques, parce que qu'est-ce qui fait que Dieu n'interviendrait pas alors dans une tragédie, ou quand un enfant meurt, ou quand quelqu'un d'innocent ou de formidable tombe malade? Bien entendu, pour moi, c'est pas compatible avec ma religiosité. Je crois pas que Dieu intervienne dans l'histoire tout à coup parce que on l'a demandé gentiment, ou qu'on l'aurait caressé dans le sens du poil, ou qu'on serait des gens bien, ou que vraiment les gens qui
je
sont frappés...
Je connais beaucoup de gens très religieux qui demandent qu'il fasse beau demain, ou qui demandent...
Et ça marche?
Non, une fois sur deux.
Non, voilà, moi je crois que la vraie question religieuse, alors c'est celle qui a souvent été posée par des penseurs après la Shoah, après cette tragédie, c'est pas tant que faisait Dieu pendant la Shoah, mais plutôt que faisait l'homme, que faisait l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette défaillance humaine, que l'homme croit ou qu'il ne croit pas? En fait, je ne sais pas si les gens ont raison d'espérer en Dieu, mais on peut de la même manière se demander si Dieu aurait raison d'espérer en l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'on n'apprend pas de notre histoire? Qu'est-ce qui fait que cette haine dont vous parliez il y a un instant, ces méchancetés, ces abjections humaines sont tellement souvent au rendez-vous de nos vies?
Oui, mais enfin, spécialement sur cette religion-là, parce que il y a eu tentative d'extermination, le peuple juif crée un État, et ça recommence, les pogroms, comme s'il y avait vraiment une malédiction. Quoi.
Oui, alors bien sûr, certains vous diront, mais la politique israélienne... Et encore une fois, moi je suis la première à le dire, on peut critiquer la politique des uns et des autres, les politiques ultranationalistes. Franchement, Israël n'est pas le seul à avoir une politique qu'on peut critiquer dans le monde aujourd'hui, d'avoir des penchants d'ultranationalisme, ou de laisser la religiosité ou la religion dialoguer avec la politique. Mais se pose quand même une question aujourd'hui, quand j'entends que quand on critique Israël, il y a tellement de gens qui se sentent autorisés à faire des équivalences ahurissantes, à parler tout à coup de nazisme pour définir le sionisme.
C'est la folie. La blague de Guillaume Meurice, là, comparant Netanyahou à un nazi sans prépuce.
Voilà, c'est-à-dire que cette nazification de la politique israélienne doit nous interroger, parce que, évidemment, c'est aberrant de créer ce genre de rapprochement quand on connaît l'histoire. C'est vraiment une volonté de transformer la victime en bourreau. Il faut se demander psychanalytiquement pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à se laver notre mauvaise conscience européenne, à dire que certes la Shoah est arrivée ici, mais finalement les Juifs ils sont capables de faire pareil, capables de faire la même chose. Enfin, c'est incroyable de solliciter le point Godwin de la Shoah en toutes circonstances. Encore une fois, le drame du Proche-Orient est un drame, mais c'est pas le seul drame sur la planète, et c'est même pas celui qui fait le plus de morts. Et je veux pas minimiser le drame et la souffrance des innocents de part et d'autre là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que ce conflit-là, plus que n'importe quel autre, suscite non seulement les passions, mais le langage déraisonné et déraisonnable?
Alors, deuxième choix musical. On reste dans le thème, hein, puisque c'est le Nocturne. Nocturne numéro 2 de Frédéric Chopin. Donc là, on est dans la noirceur totale.
Thank you.
Nous venons d'entendre le nocturne numéro 2 de Frédéric Chopin, interprété par Maria Joao Pires en 1995. C'était très beau. Et c'est une musique qu'on entendait dans le film de Polanski, Le pianiste. On se retrouve juste après quelques messages.
Paris, 1935. Des spectateurs médusés assistent à la naissance d'un prodige lors de la première de Rigoletto à l'Opéra Comique. Qui est Elio Leone et d'où lui vient cette voix en or? Avec Des lendemains qui chantent, laissez-vous emporter par la musique d'un roman magistral sur l'art et la destinée. Des lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi, disponible en poche aux éditions J'ai lu.
La poésie romantique sera à l'affiche au Théâtre de la Ville à Paris. Schubert, Schumann, Liszt, Strauss, sur des textes de Heinrich Heine. Un récital de leader du charismatique baryton autrichien Günther Haumer, accompagné au piano par Barbara Moser. Un moment musical et littéraire avec la participation de Serge Maggiani, comédien de la troupe du Théâtre de la Ville. Rendez-vous sous le signe du romantisme, samedi 16 mars à 15h au Théâtre de la Ville. Réservation sur théâtredelaville-paris.com.
Bonjour, c'est Avruggieri. Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux. La Clémence de Titus de Mozart avec la merveilleuse Karine Dehé et Madame Butterfly de Puccini. L'occasion aussi de découvrir ensemble les joyaux de cette région de toute beauté.
Le festival lyrique d'Aix-en-Provence avec Avruggieri du 20 au 23 juillet. Un séjour radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
À Pâques, vivez une semaine de concerts mémorables à la Chapelle Royale du Château de Versailles du 23 mars au 6 avril. Bach sera à l'honneur avec ses fameuses cantates interprétées par l'ensemble Correspondance. La virtuose Passion selon Saint Jean, avec le Tölzer Knabenchor, l'un des meilleurs chœurs d'enfants. Et la grandiose Messe en Si, dirigée par Raphaël Pichon. Les concerts d'exception de la Semaine Sainte à la Chapelle Royale, du 23 mars au 6 avril. Réservation sur opéraroyal-versailles.fr.
La scène musicale présente Gisèle, la nouvelle création de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Puisant leur récit dans les violences faites aux femmes, les chorégraphes offrent une nouvelle interprétation du célèbre ballet classique, accompagné de 15 danseurs. Un spectacle à l'énergie combative. Gisèle, du 14 au 17 mars, réservation sur lascenemusicale.com.
La Dolce Volta présente Michel Portal et Michel D'Alberto dans Berg, Brahms, Poulenc et Schumann. Un album d'une éternelle jeunesse, plein de sagesse, de joie et d'exultation. Une nouveauté, la Dolce Volta.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Quelqu'un d'autre, c'est le roman tant attendu de Guillaume Musso.
Côte d'Azur, printemps 2023. Qui a tué l'insaisissable Oriana Di Pietro, retrouvée sur un yacht au large de Cannes? Un homme et trois femmes livrent leur témoignage. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité.
Quelqu'un d'autre, de Guillaume Musso.
Une histoire fascinante et imprévisible qui ne se résout qu'à la dernière ligne.
Aux éditions Kalman Levy.
Jusqu'à 20h... Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Delphine Horviller dans Conversation chez La Pérouse. C'est très agréable. Nous sommes sur Radio Classique et nous parlons de choses très, très tragiques et très dramatiques, mais sur un ton un peu comme ça. On essaye quand même de continuer de vivre et d'affronter la réalité. Dans Il n'y a pas de hasard, qui était un monologue théâtral que vous avez écrit, publié en 2022, qui était un texte contre l'identité. Je me demandais si c'était pas ça, au fond, ce qui conduit au pogrom, c'est l'identité. Cette idée qu'on a tous une communauté, une identité, et qu'on s'accroche à ça et on finit par faire la guerre.
Oui, c'est-à-dire quand on s'imagine... C'est un problème, le mot identité, en fait, parce que quand les gens l'entendent, ils pensent que ça veut dire identique, en fait, que notre identité, c'est ce qui resterait inchangé en nous, ce qui aurait dit, une fois pour toutes, qui on est, comme si on n'était pas tous en train de devenir autre chose. Moi, je me dis que après une heure chez La Pérouse, je serais plus la même.
Mais non, oui, évidemment. Surtout avec moi.
Surtout avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, je suis entrée en étant quelqu'un. Mais évidemment, je vais sortir de cet endroit différente. Mais sans plaisanter, je pense que le propre, c'est vrai, de la vie, c'est que on n'a pas dit son dernier mot. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ces obsessions identitaires, elles enferment les gens une fois pour toutes dans leur essence, leur naissance, leur culture.
C'est pour cette raison-là que vous commencez votre dernier livre, Comment ça va pas, aux éditions Grasset, par un poème palestinien de Mahmoud Darwish, et que vous fermez le livre sur un texte d'un poète israélien, Yehuda Amichai. C'est ça, c'est l'idée de construire un pont.
Oui, me dire que moi j'aime l'idée que ces deux auteurs, palestiniens et israéliens, qui sont morts il y a longtemps, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais j'adore l'idée qu'ils se rencontrent.
Et ils disent la même chose.
Oui, ils disent la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'ils parlent de la nécessité de faire de la place à l'autre et à l'humain, de pas tant regarder les pierres, les maisons, la terre et cette obsession de l'installation, mais de pouvoir regarder l'autre homme, se poser la question de son besoin, de sa vulnérabilité. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que ça paraît un peu niais de dire ça aujourd'hui, mais je crois beaucoup à la poésie et de plus en plus. Je me dis, on parlait du Proche-Orient, il y a un instant que la solution, elle ne vient pas des généraux et des ministres. Je sais que ça paraît beaucoup de gens assez niais, mais je crois qu'elle vient des poètes.
Dans une émission littéraire, vous pouvez le dire, ça nous donne une mission tout d'un coup, c'est assez agréable.
Je pense vraiment que c'est une question de langage. En fait, il faut presque toute résolution de conflit ou tout changement passe par les mots qu'on utilise, évidemment. Est-ce qu'on peut les faire résonner autrement? Est-ce qu'on peut, comme ce que font les poètes, est-ce qu'on peut faire dire aux mots autre chose pour créer des mondes un peu différents. C'est fou comme le propre de la guerre, c'est que les mots veulent plus rien dire. En fait, à la base de l'écriture de mon dernier livre, il y a le sentiment que le langage est impuissant.
Vous citez la Genèse, cette phrase qu'Caïn dit à Abel, se leva et le tua. Alors on se dit, mais il manque une faute de frappe dans la Genèse. Pourtant, c'est un texte qui date d'il y a un certain temps. Il s'en serait aperçu depuis le temps. Caïn dit à Abel, se leva et le tua. Donc, en fait, ça veut dire vous m'avez fait comprendre que quand on cesse de se parler, quand il y a un mot qui manque, la violence survient immédiatement.
Oui, alors c'est drôle ce que vous dites, parce qu'effectivement, il manque un morceau dans le verset. Gens, tout le monde ne s'en rend pas compte. C'est comme si le livre était mal édité. Peut-être que la Bible...
C'est un truc mal édité depuis 2000 ans, ou plus.
L'éditeur n'a pas fait son boulot. Il manque, mais les gens ne l'entendent pas dans le verset, parce qu'il faut le lire en hébreu pour vraiment le comprendre, mais il y a marqué le surgissement de la violence dans la Bible, c'est ça. Ils sont au champ, Caïn et Abel, deux frères, et Caïn dit à Abel, il se lève et le tue. Donc en fait, la seule façon de comprendre ce verset, c'est que Caïn pensait dire à Abel quelque chose, mais il n'y est pas arrivé. Oui. Et comme il n'a rien dit, son mutisme est devenu de la violence.
Et le rôle des livres et de la littérature, c'est de mettre des mots justement pour ne pas avoir à se taper dessus. J'en suis convaincu de ça.
Oui, je pense aujourd'hui, maintenant je vais jouer un peu les vieux cons, on a le droit aussi un peu de faveur.
C'est un endroit assez adéquat pour ça, ici.
C'est que je me pose souvent la question effectivement, de l'appauvrissement du langage aujourd'hui et de son effet sur les relations. Quand je vois à quel point, mais je pense que ça a déjà été référencé, les gens doivent se poser la question de combien de mots les gens utilisent au quotidien, sur les réseaux sociaux, les mots raccourcis, les abréviations. Et quel est le lien entre l'appauvrissement du langage et les violences dans les relations sociales? Je suis sûre qu'il y a des gens qui font des enquêtes là-dessus, mais ça ne m'étonnerait pas que la corrélation soit très directe.
Oui. Autre référence que vous faites à la Genèse, c'est ce refrain qu'il y a au tout début, quand on parle de la création du monde. Il y eut un soir, il y eut un matin. Cette phrase qui revient pour les sept jours de la création, si je ne me trompe pas.
Bravo.
Je suis devant une spécialiste, oui. Et on vient d'entendre un nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il y a ça? Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est pour nous dire qu'après la pluie, le beau temps, en gros, ou que demain sera un autre jour?
En tout cas, pour qu'il y ait du beau temps, il faut qu'il y ait de la pluie d'abord. Oui. C'est ce que la Genèse suggère. Mais effectivement, c'est contre-intuitif parce qu'on vit dans des sociétés, et peut-être où culturellement, on pense que le jour se lève à l'aube. Mais dans le temps biblique, qui est d'ailleurs, le judaïsme a conservé cette idée du temps biblique, le jour commence quand la nuit tombe. Ce qui est contre-intuitif, mais par exemple, si là, ce soir, il fait nuit, si vous me demandez quelle est la date, je dois vous donner la date de demain. Parce qu'en fait, il fut soir, il fut matin, indique que le jour commence quand la nuit tombe, mais je trouve que philosophiquement, c'est intéressant parce que ça suggère que le jour nouveau, le neuf, ne vient que pour celui qui sait d'abord traverser la nuit, c'est-à-dire l'invisible, le moment où tout est flouté, le moment où on ne voit pas, où on ne sait pas. Il faut d'abord traverser cette obscurité pour reconnaître que le jour se lèvera, mais le temps commence là. Et puis, en hébreu, il y a aussi des doubles sens, toujours, puisque l'hébreu adore la polysémie. Un mot veut dire une chose, et puis son contraire. Et « il fut soir » et « il fut matin » peut être traduit complètement autrement, mais je vous le suggère maintenant, comme une poésie de l'hébreu. « Il fut soir », ça veut dire, en hébreu, « il fut responsabilité ». « Rêve », ça veut dire « soir » ou « responsabilité ». Et « matin », « boker » en hébreu, ça peut aussi vouloir dire « sens critique ». Et moi, j'adore cette traduction. S'imaginer que, dans la Genèse, il est écrit « il fut responsabilité ». Il fut sens critique. Et je me dis souvent que tant que voilà, on n'est pas dans la responsabilité de ce qui nous arrive, dans une capacité de sens critique, eh ben le jour ne peut pas venir.
Oui. Et d'ailleurs, quand on disait que fout Dieu alors qu'il y a tellement de monstruosité en cours, peut-être que le sens de cette épreuve terrible pour les deux camps en Israël et en Palestine, ce serait d'arriver à faire la paix. Et si jamais de cette nuit naissait une paix, bon, bah, ça n'aurait pas été pour rien. Bon, c'est un raisonnement à la con hein, que je vous dis, mais c'est bah, peut-être ça, il y a eu un soir, il y a eu un matin.
Oui, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans, de part et d'autre dans une conscience de ses responsabilités et dans une capacité d'exercer contre soi un regard critique, eh ben, il fera vachement noir.
Dans cette émission, il y a un jeu intitulé « Devine tes citations ». Je vais vous lire des phrases de vous, tirées de tous vos livres, et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ça.
Ah d'accord, mais elles sont toutes de moi, donc j'ai passé je ne peux pas me tromper sur l'auteur.
Non,
d'accord.
Non. L'auteur c'est vous, d'accord. Mais où avez-vous dit ça? Beaucoup de gens ignorent ce que font les rabbins, les prêtres et les imams quand ils ne regardent pas Star Wars. C'est de vous, hein. C'est pas de moi. Hein.
Alors, je vois. Ça doit être dans Comprendre le Monde.
Exact. Comprendre le Monde, qui était une conférence de 2017 que vous aviez prononcée et vous avez publié le texte en 2020. Alors, vous êtes fan de George Lucas?
J'aime beaucoup les sagas et c'est vrai que j'ai des enfants qui m'ont fait aussi les revoir assez fréquemment ces dernières années.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que Dark Vador et Luke Skywalker et la princesse Leia, moi, j'ai toujours pensé que c'était la Bible avec des sabres laser.
Absolument, hein, oui, vous avez raison, il y a quelque chose là-dedans. Et puis ça commence toujours par dans une petite histoire, c'est dans une galaxie, il y a très longtemps.
Très lointaine.
Voilà. Et j'adore l'idée qu'en fait, ils sont hyper modernes, ils ont des armes avec incroyables, mais ça se passe dans le passé. Donc ça crée un bluff, on se dit, mais comment c'est possible que dans le passé, on soit dans le futur? Et j'aime cette espèce de confusion des temps que ça nous propose.
Une autre phrase de vous. À trop vouloir protéger les corps, on ampute symboliquement celui des deux sexes.
Peut-être dans Tenue d'Ève.
Eh mais oui, bravo, ouais. vous connaissez bien votre œuvre. 2013. Oui, c'était un texte un peu contre les femmes voilées, ouais. Mais quand même pour la pudeur. Oui. Alors expliquez-vous sur ce paradoxe.
C'est que, en fait, je crois que la pudeur, dans nos traditions religieuses, c'est la conscience qu'on ne peut pas tout voir, que la volonté de tout voir, l'absolue transparence, est toujours le prélude à une violence terrible, bon, politiquement, socialement. Mais l'horreur de nos traditions religieuses, dans leurs voies les plus fondamentalistes, c'est qu'elles n'appliquent cette notion de pudeur qu'au corps de la femme. C'est toujours ce corps-là qu'il faut couvrir, comme s'il était par définition un peu plus nu, un peu plus impudique qu'un autre. Donc on se méfie des femmes, on se méfie évidemment de leur corps, on se méfie de leur voix, on se méfie de leur savoir. Pourquoi? Parce que leur donner du savoir, c'est leur donner du pouvoir. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les domestiquer, pour les cacher. Et en fait, il y a quelque chose, à mon sens, je ne peux pas le formuler autrement, il y a une forme d'obscénité dans l'obsession de la pudeur des femmes.
Oui, c'est vrai. Et puis vous disiez d'ailleurs que j'ai appris ça, que le mot texte et le mot textile avaient la même origine.
Oui, et dans plein de langues, en fait, dans plein de langues, il y a un rapport entre le texte et le textile. Par exemple, oui, en anglais, on dit the plot pour dire l'intrigue, mais en fait, c'est une pelote de laine.
Ah, oui.
En hébreu, on parle de les traités du Talmud, ça s'appelle masecha, ça veut dire l'outil du tisserand, quelqu'un qui est capable de tisser. En fait, le texte et le textile, c'est la conscience que des fils. Fil de l'intrigue se croise et en fait c'est cousu de fil blanc.
Alors on continue dans le tragique avec Mozart. Là carrément vous avez choisi le Lacrimosa du Requiem.
J'étais en forme. Hein.
Oui, je sais pas à quelle heure vous nous avez envoyé vos choix musicaux, mais enfin c'est très très beau quand même, hein, par l'Académie de Saint Martin in the Fields, dirigée par Sir Neville Mariner en 1991. Requiem, bien sûr, de Wolfgang Amadeus Mozart, et qui est une musique qui rend sacrée, qui donne envie de croire, qui donne accès à quelque chose de transcendant,
de plus tal. Grand, oui.
C'est bizarre, dans vos choix musicaux, vous n'avez pas pris la fugue en ré mineur de Bach, qui est le générique de « Il était une fois l'homme », dont vous parlez dans le livre. C'était un dessin animé sur l'évolution, hein, c'est ça.
Maintenant, je regrette.
Mais oui, malin, non.
Oui, j'y fais référence pour c'était un gimmick dans le livre. Vous savez, beaucoup de gens de notre génération peut-être se souviennent. Ça faisait ta 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 ta. Et puis on nous racontait l'histoire de l'homme à toutes les époques, comme ça dans cette fugue.
Et on s'aperçoit que l'homme a toujours fait les mêmes atrocités, toutes les mêmes injustices, les mêmes bêtises. Il les répète sans arrêt. Alors moi, à propos de Rabin, puisque j'en ai un en face de moi, il y a un film que j'adore qui est A Serious Man des frères Cohen. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Chef-d'œuvre,
hein, ouais. Où il y a un type, tout va mal pour lui. Il perd sa femme, ses enfants le méprisent, il perd son boulot. Ouais. Et il va voir des rabbins pour leur poser la question, mais quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Et puis les rabbins, on l'envoie à un rabbin plus important, puis un autre rabbin plus important. Et à la fin, il voit un monsieur avec une grande barbe qui lui dit d'écouter le Jefferson Airplane. Je voudrais que vous m'expliquiez le sens de cette parabole.
Ah ben non, si je l'explique, c'est pas possible. Encore une fois, il faut pas le résoudre, mais le génie des frères Cohen, c'est effectivement de gérer la profondeur de l'absurde. Dans mon souvenir, le film, il commence par, il y a une espèce de petit prélude, une petite histoire de, justement, de D-Book, de fantôme, quelqu'un qui revient au départ, une histoire de revenant. Là, on est en plein dans l'humour juif, tout ce qui est de plus classique, qui va de, effectivement, bon, Woody Allen, qu'on cite très souvent, mais aussi, il y a des séries américaines comme Seinfeld, toutes ces séries, et Serious Man, c'est des films qui incarnent le renouveau de.
Mais comme on en parlait en commençant, la menace rend non seulement intelligent, mais elle rend drôle, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un nombre de Nobel écrasant juifs, si l'humour juif est connu et fait rire tout le monde, c'est parce qu'il y a cette menace depuis toujours.
Oui, puis il y a je pense qu'il y a une réaction à la menace, mais il y a aussi un certain goût de. Il y a un culot, souvent, dans la pensée juive, qui fait qu'on on est invité à questionner, à interroger le système. Et ça commence très tôt, c'est vrai, dans la tradition juive, même dans les rites religieux les plus traditionnels, on invite les enfants à poser des questions. Et par exemple, au moment de la Pâque juive, qui est un moment très célèbre, toute la famille autour de la table, et on ne peut pas commencer à célébrer la fête si les enfants n'ont pas interrogé les adultes. Il y a une sorte d'invitation à la rébellion tendre.
Et l'autodérision.
Et l'autodérision, oui. Et cette questionnement du système, en fait, c'est vrai, il n'est pas sans lien avec ce qu'a pu être un certain talent juif dans l'histoire à être un petit grain de sable dans la machine, à amorcer des changements de paradigme. Mais ce n'est pas sans lien non plus avec l'antisémitisme. Je pense qu'on a beaucoup reproché ça aux juifs d'être des perturbateurs du système ou de l'ordre établi, parce qu'ils arrivaient avec des idées révolutionnaires. Enfin, c'est pas du tout un scoop que de se dire qu'en mai 68, il y avait beaucoup de juifs dans le mouvement. Il y a quelque chose dans cet esprit qui est encouragé très tôt, culturellement, à ne pas prendre pour acquis le monde tel qu'il est, mais à se dire qu'il pourrait en être autrement.
Alors, ça rejoint une autre phrase de vous. Vous devez toujours me dire où vous avez écrit ça. « Nous sommes esclaves des définitions figées et finies de nous-mêmes, de nos origines, de nos ancrages, de nos assignations ethniques ou religieuses. »
Alors, je dirais...
Bon, vous l'avez dit un peu dans tous vos livres.
Oui, mais peut-être dans « Comment les rabbins font les enfants ?»
Eh pas du tout, c'est dans « Il n'y a pas d'Ajar ».
Ah, d'accord.
2022. Mais c'est vrai que Romain Gary, c'est un exemple de réinvention de soi. Quoi. Oui. C'est-à-dire, mais alors, paradoxe, vous ne cessez pourtant de vous référer à des textes très anciens. Mm-hmm. Donc on peut se référer aux textes très anciens tout en s'en foutant.
En fait, pas pour s'en foutre, mais pour dire qu'on va prendre une petite tangente. Mais pour prendre une tangente, il faut partir de quelque part. En fait, je pense que pour pouvoir être rebelle, vraiment, il faut savoir qu'on est héritier de quelque chose. Je pense que
intéressant ça.
Je pense que on est rebelle et on a un confort pour l'être si on sait d'où on vient. C'est une possibilité. Moi, l'image que j'ai toujours, c'est celle du bateau lesté. En fait, vous pouvez voyager loin de votre port parce qu'il y a dans votre bateau, on vous a lesté d'un poids. Vous avez hérité d'une histoire qui vous permet de vous éloigner un peu de votre ancrage d'origine. Donc, moi, ça me rappelle toujours ce titre magnifique de l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans l'existence qui souffrent de l'insoutenable légèreté de l'être. En fait, c'est difficile de voyager léger. C'est beaucoup plus simple quand vous savez lester d'une tradition que vous allez pouvoir bousculer, même parfois violenter, dépoussiérer. Mais il faut savoir de quoi on est héritier. C'est pour ça que aujourd'hui, je pense que dans nos sociétés, on a une vraie douleur sociale et politique que les gens ne veulent pas être héritiers de rien. On ne veut pas déboulonner les statuts, se débarrasser du passé. Alors qu'en fait, c'est intéressant de se dire, on vient de quelque part et on va en faire quelque chose.
Mais en même temps, ce que vous dites, c'est aussi que c'est dangereux si on reste un petit peu trop esclave de cet héritage. Et donc le problème, c'est à la fois, il faut l'accepter, mais en même temps s'en débarrasser.
Oui.
D'accord, ouais. Donc, j'ai compris.
Voilà. Il faut savoir qu'on a cet héritage, mais qu'il attend de nous qu'on lui donne quelques petits coups de boule.
Voilà. Après, je pourrais déraper, mais pas déraper, mais oser une question très taboue, parce que j'admirais beaucoup George Steiner. George Steiner était anti-sioniste. C'est un très grand intellectuel, très, très cultivé, vraiment un génie qui parlait toutes les langues. Mais il disait, les arbres ont des racines, moi j'ai des jambes. Il était contre la création d'un État d'Israël et il disait, nous sommes une aristocratie non violente. Nous sommes des invités parmi les hommes. Qu'est-ce que vous répondez à cette idée Voilà, cette idée qui faisait, lui, l'idée que ça devait rester une diaspora.
Oui, mais je trouve que dans la théorie, il a raison. Mais si le monde avait su sauver les Juifs, on n'en serait pas là. À partir du moment où le monde et les nations n'ont pas sauvé les Juifs, eh bien,
il a fallu créer un État pour se protéger.
Et si on avait le choix, mais l'État d'Israël est un refuge qui répond au fait que le monde l'a démontré encore et encore. Il n'a pas, et peut-être n'est pas, en mesure de sauver les Juifs.
Oui, mais enfin là, Netanyahou n'a pas été en mesure de protéger ses citoyens.
C'est le drame aujourd'hui pour les Israéliens et pour beaucoup de Juifs de diaspora, c'est de percevoir que Israël, qu'on percevait comme un refuge, une zone de sécurité, ne l'a pas
même
été
plus.
Le 7 octobre. Et la question est de savoir aujourd'hui quel est le refuge. Si Israël cessait de l'être, quel serait alors le refuge?
Et quand est-ce qu'il partira, ce type? Il a visiblement été incompétent. Il va falloir qu'il s'en aille.
Oui, mais il a effectivement la question de sa survie politique incroyable. C'est un animal politique tel un phénix qui renaît de ses cendres constamment. Moi, le nombre de fois où les gens m'ont dit « c'est la fin de Netanyahu, il ne survivra pas à cet épisode politique », ça n'a jamais marché. Et à mon sens, c'est un drame... c'est un drame pour Israël et aujourd'hui, le traumatisme, je ne sais pas dans quel sens, quelles seront les répercussions de ce traumatisme. Est-ce qu'on parviendra à se débarrasser de Netanyahou ou est-ce qu'au contraire, s'imposera encore un leadership
Le même problème se pose dans le camp d'en face d'ailleurs. Comment se débarrasser du Hamas et comment faire qu'il y ait à la tête de ces deux États des gens prêts à s'entendre et faire la paix.
Bien sûr, l'islamisme du Hamas est une plaie terrible
pour le peuple palestinien,
pour le peuple palestinien et le monde arabe.
On va pleurer une rivière, puisque c'est votre choix de musique non classique dans l'émission, c'est Barbara Streisand.
Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me.
Merci pour ce beau choix, la voix de Barbara Streisand qui nous chante Cry Me a River. C'est un enregistrement live à Greenwich Village en 1962. Merci beaucoup Delphine Horviller, Madame la Rabbine, d'être venue discuter paisiblement, de manière civilisée, dans ce salon chez La Pérouse. En conclusion, je vais citer encore une phrase que vous citez vous-même dans un de vos livres. Si vous rêvez d'un éléphant rose avec des lunettes de soleil, c'est que vous avez un problème avec votre belle-mère. Cette phrase me fait énormément rire, je ne sais pas pourquoi. Mais si, parce que en fait, vous avez donné une conférence à l'hôpital Sainte-Anne en 2019, intitulée « Le rabbin et le psychanalyste ». Et moi, je me demande, quelle est la différence entre un rabbin et un psychanalyste? Est-ce qu'il y en a une?
Je crois que non, la psychanalyse est très héritière quand même du Talmud et cette pensée de l'interprétation. Oui. Elle reconnaît, elle aussi, cet héritage.
Et puis, ce qui est formidable dans le Talmud, c'est que c'est un art de ne pas être d'accord. Et on arrive à ne pas être d'accord tout le temps, depuis 5000 ans.
Ouais. Mais en français, on le dit très bien, quand on dit « tomber d'accord », on perçoit bien que l'accord...
Non, Alors restons debout et pas d'accord. Merci infiniment.
Merci
et,
beaucoup.
Merci à tous, en particulier à Philippe Gau, le producteur de cette émission, à Mathieu Roque-Lago à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant, sur Radio Classique, le concert du samedi soir, Jean-Michel Duez vous proposera le Requiem de Gabriel Fauré, pas celui de Mozart, mais un autre qui est très beau aussi, interprété par l'orchestre de Metz Grand Est. Bonsoir à tous, bon dimanche, demain, bonne semaine et vivement samedi 19h.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé, en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.